Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Là, on se retrouve sur un éco-village, le Bois du Bard, quelque part en Bretagne, qui a accueilli pendant 3-4 jours un stage sur cette notion du vivre ensemble, du vivre autrement, de l'habitat participatif. Un mode de vie qui d'ailleurs interpelle et interroge de plus en plus de gens. On se rend bien compte qu'aujourd'hui le système est en train de se transformer et les gens repensent leur mode de vie pour essayer d'y mettre plus de sens et plus de conscience. Sur ce lieu, des rencontres, dont toi, Lauriane, donc je sais peu de choses sur toi, si ce n'est qu'on est copains Facebook sans avoir pris le temps de se rencontrer ou de se connaître. Mais on est copains Facebook pourquoi ? Parce que j'avais dû voir que tu voyageais en France en vélo. À la rencontre de différents collectifs, de différents écolieux. Donc on va parler un petit peu de ce projet-là qui est le tien depuis maintenant presque un an, je crois. Mais avant de parler d'éco-village, de collectifs, c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt toi. J'ai envie de savoir qui tu es et pourquoi est-ce qu'un jour tu t'es dit « Allez, je monte sur la selle pour me mettre en mouvement ».
Merci Alexandre, bonjour. Donc moi c'est Lauriane, j'ai 29 ans. Parcours assez classique, école de commerce, j'ai travaillé 3 ans, je me suis spécialisée dans l'entrepreneuriat social, j'ai pas mal de stages là-dedans, j'ai pas mal voyagé, j'ai explosé mon impact carbone pendant quelques années en allant un peu dans tous les continents, faire notamment de l'humanitaire et des stages dans des associations, dans des ONG. Ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans et demi. À Londres, chez TerraCycle, qui est une entreprise dans l'économie circulaire, qui a pour mission d'éliminer la notion de déchets. Super job, super collègue, super mission. J'avais beaucoup de chance parce que j'ai rapidement évolué dans l'entreprise. À la fin, j'étais directrice commerciale Europe. Et du coup, j'ai démissionné pour faire un tour à vélo des écolieux que je fais depuis 1 an et demi.
Yes, c'est chouette, belle intro. Donc avant de parler de ce tour de France des écolieux en vélo, tu as déjà pas mal voyagé et j'entends qu'il y a toujours eu finalement des valeurs assez fortes au sein de tes voyages ou même des boulots que tu as pu faire. Tu parlais d'ONG. Donc reviens à la Lauriane qui finit ses études, qui décide de partir à l'étranger. Pourquoi ? Quel a été le projet et qu'est-ce qui te nourrissait à l'intérieur ?
Je pense que j'ai été longuement en dissonance cognitive parce qu'il y avait une partie de moi qui voulait essayer de caler à la norme et donc faire un peu comme tout le monde, tout l'école de commerce, ce genre de choses. Et une autre partie de moi qui avait ces valeurs fortes, qui avait envie de changer le monde, qui a un gros syndrome du sauveur sur lequel j'essaye encore de travailler. Et donc c'est ça qui m'a poussée à ça et aussi l'envie de découvrir, de voyager.
Tu parles de cette dissonance cognitive, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans, où on est quelque part dans un système où on essaie de rentrer dans une case en faisant plaisir à sa famille, à ses amis, à son environnement social, et souvent on oublie de s'écouter soi, dans qui on est réellement. Et jeune, on n'a pas forcément l'accompagnement suffisant pour réussir à émerger qui on est vraiment et ce qu'on aime vraiment. Donc toi, tu étais un peu dans cette dualité, j'ai l'impression. Hein, donc école de commerce, j'imagine, c'était pour faire plaisir à ta famille ou pour te sécuriser toi, en ayant une direction claire. Et pourtant, tu avais quand même quelque chose d'un peu plus humain en toi, enfin d'humain, je vais pas dire que si vous êtes en école de commerce vous n'êtes pas humain, mais tu avais quand même cette envie de sauver le monde, tu parles. Donc comment t'as fait le switch, comment est-ce que finalement entre ces deux forces qui se battent en toi, tu as donné raison à celle qui a été de sauver l'humanité?
Alors ces valeurs je les tiens de ma famille, de mes parents notamment, et ils m'ont jamais mis la pression pour au niveau des études ou ce genre de choses. Je pense que je me la mettais moi-même parce que grosse peur du rejet, je pense. Donc ça s'est vraiment fait petit à petit, en fait. Et puis à un moment donné, quand j'étais en école de commerce, à un moment donné, j'étais pas épanouie. Et donc j'ai même fait une petite dépression pendant cette période-là. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un truc qui va pas. Je comprenais pas pourquoi, parce que je croyais que tout allait bien. Et c'est, je crois que ça a été ça quand même le déclic de « Ah ouais, en fait, je vais à l'encontre de moi-même. » Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire aussi de la recherche du développement personnel, etc. Après, j'avais déjà commencé ce processus dès le départ. En fait, avant l'école de commerce, j'ai fait une classe préparatoire. Et la première semaine, j'avais un entretien de préparation aux entretiens d'embauche, enfin, pour intégrer les écoles. Et la première personne à qui j'ai parlé, quand je lui parlais de moi, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu vis dans le monde des bisounours, t'as rien à faire ici. » Donc très rapidement, en fait, j'ai dû commencer à réfléchir. Alors comment j'intègre mes valeurs dans ça? Et c'est comme ça que je suis partie très rapidement dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat social, parce que voilà. On m'a un peu dit que, enfin, il fallait que je trouve ma place en restant un peu dans la norme, mais quand même un petit peu alternatif.
Mais partir dans l'humanitaire, ça veut dire quoi? Parce que je pense que tu as des écoles en France, je pense à l'IFED ou à Bioforce qui sont là pour préparer pour faire de longues missions humanitaires. Donc reviens sur cette partie de ta vie, qu'est-ce que c'est que faire de l'humanitaire et comment est-ce qu'on prépare une mission et quel type de mission, sur quel projet tu as travaillé?
J'ai failli faire un double diplôme avec Bioforce, mais je me suis en... J'ai préféré aller dans l'entrepreneuriat social parce qu'à cette époque-là, je cherchais un modèle des modèles économiques que je considérais viables sur le long terme. Et donc pour moi, ça devrait intégrer le modèle capitaliste pour lequel aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas viable. Donc je sors un peu de ces modèles de « il faut absolument que ça soit rentable », etc. Parce qu'en fait, le modèle dans sa totalité va s'effondrer à un moment donné. C'est pour ça que dans mes études, en tout cas, je ne suis pas allée voir directement l'humanitaire. Ensuite, c'était plus à côté dans mes investissements associatifs, où je faisais partie de plusieurs associations, donc soit d'aide locale, type secours populaire, soit ou travailler de l'associatif dans des hôpitaux avec les enfants, ce genre de choses, ou soit sinon à l'étranger, dans un orphelinat au Bénin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du bénévolat en Bolivie, que je profitais que je faisais un échange universitaire en Argentine. Donc j'ai fait un mois en Bolivie. J'étais chef de projet dans une mission humanitaire associative étudiante au Laos. On est parti à 15, on avait récolté 6000 euros, je crois, pour créer une école. Donc on avait été sur place. Et j'ai passé 6 mois aux Philippines en stage dans l'entrepreneuriat social.
Donc ça, c'était plutôt dans le cadre de tes études de SS, si je comprends bien, c'est ça?
C'était intégré à ça, ouais. Ouais, tout à fait, en fait, ouais.
Et à la fin de tes études, tu as continué à voyager pour faire des missions, ou à titre personnel, peut-être?
À la fin de mes études, je suis allée à Londres. Et c'est là que j'ai développé vraiment ma conscience écologique et que je suis restée un peu plus sur le local.
La conscience écologique, qu'est-ce que c'est que cette conscience écologique dont tu parles? Comment est-ce que tu le définirais? Ou peut-être fais-moi un constat du monde ou de ce que tu observes et qu'est-ce qui fait que tu as développé cette conscience-là?
Je pense que... j'ai toujours... voulu lutter contre les injustices, les choses que je... Derrière les injustices, je pense que c'est les choses que je comprends pas, quoi. C'est les incohérences. Le manque de conscience, l'inconscience. Quand on fait des choses, l'inconscience de l'impact qu'on a. Quand on fait une action, quand on ne fait pas une action, quand on dit quelque chose ou qu'on ne dit pas quelque chose. Donc quand j'étais petite, c'était les animaux. je voulais lutter pour protéger les animaux. Après, quand j'ai grandi, j'étais plus orientée vers l'humain, parce que je suis passionnée par l'humain. Plus le côté social. Et après, l'écologie est devenue... on en a parlé de plus en plus. Et je me suis rendu compte qu'agir uniquement d'un point de vue social, ça n'avait pas de sens, parce que l'écologie a ensuite impacte notamment les personnes les plus fragiles et va avoir un impact social considérable et va juste continuer à augmenter les inégalités et l'injustice sociale.
Et donc c'est pour ça que tu as fait le choix de stopper le voyage? C'est vraiment cette conscience que tu as dit bon allez maintenant j'arrête de brûler du carbone? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on parle énormément de l'impact des déplacements en avion.
Non, à l'époque, j'avais pas conscience. Et donc, c'est vrai que quand j'ai un peu commencé à lire et à me renseigner sur l'écologie très rapidement, en fait. Il y a quand même beaucoup de lectures et on peut très rapidement... J'ai pu arriver au constat qu'on connaît bien aujourd'hui. Enfin, j'espère qu'en tout cas qu'on connaît de plus en plus, pas assez. Donc très rapidement, en quelques mois en fait, j'ai pris conscience j'ai pris la mesure de la problématique écologique que j'avais en tête depuis longtemps, mais pas à ce point-là. J'avais pas compris en fait l'envergure. Ensuite, principalement pour des raisons de réduire mon impact, ça je l'ai fait aussi en parallèle, en même temps que j'ai développé ma connaissance sur le sujet. Je suis devenue aussi facilitatrice, animatrice de la fraise du climat, donc voilà, j'ai développé de la sensibilisation autour du dérèglement climatique et d'autres sujets. Donc en parallèle de ça, j'ai cherché à incarner ce que... En fait, moi je cherche toujours à incarner mes valeurs. Et donc j'essaie de commencer par moi, donc c'est un chemin que je faisais en parallèle, donc ça a impliqué de pas prendre ou en tout cas de réduire au maximum l'avion. Et il y a aussi, parce qu'en parallèle j'ai aussi beaucoup travaillé ce qu'on appellerait du développement personnel, aussi me réorienter moi-même sur qu'est-ce que je recherche à l'étranger et où est ma place. Et je pense qu'aujourd'hui, là maintenant, ma place elle est en France, parce que il y a beaucoup de choses à faire aussi en France en termes de sensibilisation et de développer les consciences.
Vraiment un chemin de recherche de cohérence en fait entre ce que tu es et ce que tu vis dans ta vie personnelle et professionnelle.
Oui, c'est ça, et c'est un chemin qui est infini, parce qu'en fait je pense que si on devait, j'ai utilisé plusieurs fois le mot, je pense, conscience, je pense si je devais, parce que ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps, je ne comprends pas ce que tu fais, de plus en plus tu pars dans tous les sens, et je pense que ce qui rassemble à peu près toutes les recherches et toute l'exploration que je fais, c'est comment je développe ma conscience sur tous les sujets, comment je déconstruis mes croyances, notamment les fausses croyances. Comment je prends conscience de tous les enjeux systémiques et de toutes les formes d'oppression systémique, donc que ce soit aussi le patriarcat, ce genre de sujet, ou le racisme, parce que moi aussi je suis pas juste aussi, je suis une femme, donc sur la question du patriarcat me concerne en tant que oppressée, mais sur beaucoup d'autres sujets je vais être privilégiée et oppresseur sur d'autres questions qui ne me concernent pas en tant que blanche venant d'un milieu relativement privilégié, enfin en tout cas de la classe moyenne, etc. Ouais, pardon, vas-y.
Non, je reviens juste sur le mot conscience. Est-ce que tu peux me le définir ? Qu'est-ce que c'est pour toi, la conscience ?
Ah ! Bonne question. Je pense qu'il y a vraiment un côté... À la base, moi, je viens d'un milieu très rationnel, cartésien, scientifique. Les émotions, ça n'existe pas, vraiment... Donc il y a ce côté quand même assez intellectuel qui reste présent en moi et j'aime beaucoup en fait penser les choses que je fais. Donc poser de la conscience, c'est plus, pour moi à la fin, c'est agir au lieu de réagir. Donc ça veut dire, ça je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est méditation de pleine conscience et plus généralement la spiritualité. Par spiritualité, j'entends... chercher de donner du sens à sa vie et se connecter à plus grand que soi en général, quoi. Pourquoi je parle de ça ? Oui, parce que du coup, c'est comment aussi je comprends un peu plus mes mécanismes, les mécanismes de mon cerveau, etc., pour être vraiment pour faire les choses en conscience. Donc, avec je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et pas les faire pour d'autres raisons inconnues en fait. C'est avoir plus de. Ouais.
Mais comment on fait, déjà, ce chemin de la cohérence et de la conscience, donc on se rend bien compte qu'on vit dans un monde qui marche sur la tête, hein, où sévit une famine de l'essentiel, donc on sait tous que c'est pas forcément bien de prendre sa voiture ou de manger du chocolat, enfin il y a plein de choses, plein d'actes qu'on pourrait... En fait j'ai l'impression que vouloir être en conscience sur chaque aspect de sa vie, c'est hyper compliqué et ça peut générer une forme de frustration aussi, non ?
c'est hyper compliqué et c'est aussi, moi je trouve ça hyper joyeux. J'adore faire ça. Ça demande de l'acceptation de ne pas être parfait. Ça demande parfait ou parfaite. Ça demande du lâcher prise. Mais c'est vraiment à avancer pas à pas, au rythme qui nous convient. Moi j'ai tendance à faire les choses à fond. Donc quand je prends conscience de quelque chose qui ne convient pas, bim, j'y vais à fond. Mais en fait, chacune va à son rythme. Et pour moi, ce qui est important, c'est... Ça expliquera pourquoi après j'ai fait ce choix de démissionner de mon travail, c'est que j'ai fait beaucoup de sensibilisation autour du dérèglement climatique et ça génère beaucoup d'anxiété chez les gens. Et parfois, l'anxiété est moteur chez certaines personnes. Chez moi, ça ne l'est pas. En tout cas, je n'aspire pas à diffuser l'éco-anxiété tout autour de moi. Et j'ai plutôt envie de vrai pour la vie, parce que pour moi l'écologie c'est vrai pour la vie, et donc de parler du vivant, de parler de choses qui donnent de la joie. Et donc pour moi le changement, la prise de conscience, c'est quelque chose de joyeux, quoi. En fait je suis heureuse de pas prendre l'avion, en fait. Et si un jour je suis malheureuse à l'idée de pas prendre l'avion, je vais prendre l'avion, en fait. Par exemple, y a mon frère qui va se marier en Inde, probablement. Mon objectif, c'est de me rapprocher le plus possible de l'Inde sans prendre l'avion. Mais peut-être que les pays frontaliers, en ce moment, c'est le bordel. Enfin, je crois. Je vais sûrement prendre un petit bout d'avion, mais juste, ça me met en joie d'essayer de me dire, alors, comment je me rapproche au maximum. Et ensuite, puis c'est un voyage en soi, et j'ai hâte de faire ça.
On va parler de cette étape, hein, donc quitter ton boulot pour prendre ton vélo et faire un tour des éco-villages. Mais je souris parce que je vois ta veste Patagonia. Je crois que c'est la seule entreprise aujourd'hui qui reverse 100% de ses bénéfices en faveur de l'écologie et de l'environnement.
Oui, la plupart des choses que je porte sont d'occasion. Quand je fais des achats, je fais beaucoup de recherches dessus. Du coup, ça demande beaucoup de motivation. Donc, j'ai souvent beaucoup la flemme d'acheter des choses. Donc j'essaye, pareil, de ce côté en conscience, de quand je fais un investissement, je fais pas mal de recherches pour trouver quelque chose qui me correspond le mieux, en faisant des erreurs sur la route, mais ouais.
C'est une question idiote, mais du coup, c'est quoi ton téléphone ?
Mon téléphone ? Ah, je sais même pas ce que c'est comme téléphone. En fait, moi, ça fait depuis quelques années, alors c'est un Nexus LG. En fait, ça fait plusieurs années que je récupère des téléphones de mes amis qui n'en veulent plus. Donc, je les récupère gratuitement. Donc, ce téléphone, ça fait 2 ans que j'ai récupéré. C'est une catastrophe. Il est tellement lent, en fait, que ça m'encourage à ne pas l'utiliser. C'est plus rapide pour moi d'allumer l'ordinateur que d'utiliser ce téléphone. Donc, c'est une manière de réduire ma consommation.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Lauriane, donc tu quittes ton boulot pour te mettre en mouvement et partir faire un tour de France en vélo. C'est quoi ce projet ? Comment est née cette idée et pourquoi tu fais ça ?
Oui, c'était il y a à peu près 2 ans. Confinement, retourne chez papa maman en Auvergne, parce que moi je vivais dans un petit appartement à Londres en colocation, et faire quelques semaines, à l'époque je crois que c'était quelques semaines de confinement dans une chambre, c'était pas possible pour moi en télétravail. Donc je suis rentrée chez mes parents avec une maison et un jardin à la campagne pour le télétravail. Au final j'ai passé 5 mois, c'était pas prévu. Et je pense que ça a contribué à accélérer le processus de réflexion parce que, de un, je travaillais plus en télétravail. Du coup, j'avais mon ordinateur avec moi H24, donc j'arrivais plus à déconnecter à 19h-20h. Donc, j'éteignais mon ordinateur à 11h minuit, quoi. Donc, la semaine, donc je travaillais encore plus. Et le week-end, j'allais faire... Alors quand on avait le droit, j'allais faire quelques balades dans les volcans d'Auvergne et je me reconnectais un peu à la nature. Et là, je commençais un peu à prendre conscience de ma petite déconnexion, de ma grande, grosse déconnexion dans ma vie quotidienne, à passer tout mon temps derrière l'ordinateur. Donc il y avait moins de rapports humains, alors que moi ce que j'aime c'est les rapports humains. Enfin, il y avait des rapports humains, je passais mon temps en vidéoconférence, mais du coup à travers l'écran c'est pas la même. Donc il y avait ce ressenti de déconnexion, complètement, je me sentais complètement déconnectée de la réalité. Et de toute manière, je commençais à me sentir à l'aise dans mon travail. Et donc c'était un peu, c'est quoi le prochain challenge? Et donc je me suis dit que j'allais commencer à réfléchir à ce que j'allais faire après. Mais je me disais pas maintenant, dans 1 ou 2 ans, quoi. Et donc, j'ai un peu répertorié toutes les manières d'avoir un impact social, environnemental. Que ce soit dans l'enseignement, dans la sensibilisation, la facilitation. Je faisais un peu toute ma liste. Et une des premières personnes à qui j'ai parlé, c'est quelqu'un qui avait fait un tour des écolieux. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire écolieux à ce moment-là. Je n'avais même pas compris ce qu'il faisait quand je lui ai parlé. Mais c'est un peu au feeling, en fait. Souvent, je fais des choses un peu au feeling. Et je me suis retrouvée du coup à lui proposer un appel et à ce qu'il me raconte son tour des écolieux. Et en fait, c'est en une heure de téléphone avec lui, j'avais pris ma décision. Christo de Sa part de là qui a fait un livre avec sa partenaire Romane, son amie Romane que je recommande au passage. Et en fait, je crois que ça a été un déclic parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui me ressemblait, qui avait les mêmes idées que moi, qui venait du même... qui me ressemblait, au même milieu social, etc. Enfin, non, j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, qui me ressemblait. Et je crois que j'avais peur jusque-là d'aller voir les milieux très alternatifs, justement parce que moi, je voulais quand même rester un peu dans le modèle, pas trop sortir. J'avais peur de me retrouver avec des gens pas habillés comme moi. J'avais un peu, cet a priori. Et de parler avec lui, ça a comme cassé cet a priori. Et pour moi, du coup, à la fin de cet appel, c'était je démissionne et je vais faire un tour des écolieux.
Tu as quel âge là quand tu fais ce choix?
Du coup, j'avais 27 ans.
Et donc, tour des écolieux, mais en vélo. Donc, comment ça se passe? Comment tu prépares cet itinéraire? Comment est-ce que tu choisis les lieux? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, des écovillages, dans ce festival, aujourd'hui, on en a parlé, hein, il y en a plus de 1000 qui sont identifiés sur une carte, la carte des oasis. C'est quelque chose qui connaît un engouement comme jamais, hein, depuis notamment le Covid. De plus en plus de gens prennent conscience que le collectif permet d'être plus résilient aussi dans un système qui va pas forcément bien. Tu parlais à un moment donné, au début de cette interview, d'effondrement. Donc, le collectif serait une solution pour aller plus loin. Ensemble on va plus loin, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et souvent, ou en tout cas ce qu'on a observé dans la crise Covid notamment, c'est le manque de lien. Les gens souffraient de se retrouver seuls et isolés chez eux. Et souvent dans ces collectifs, y a d'autres problématiques, hein, souvent liées aux facteurs humains, mais quand même on est ensemble. Et je crois que cette notion de résilience, elle est plus qu'essentielle aujourd'hui. Bref, c'est pas moi qui parle, c'est toi. Donc je reviens là-dessus. Donc comment est-ce que tu te mets en route? Tu choisis le vélo, comment il y a de locomotion, par quoi tu commences, comment on fait, hein, donne un peu des clés à peut-être tous ceux qui sont dans le même état d'esprit que le tien et qui se posent des questions sur leur place dans la société, sur leur mode de vie, sur le travail, le manque de sens souvent, hein, je crois que c'est vraiment ça, cette notion de remettre du sens dans nos existences. Donc voilà, quel conseil tu donnerais pour celui ou celle qui est en train de s'interroger sur ce qu'il fait dans sa vie et qui aimerait aussi remettre un peu plus de sens et peut-être aller vers ce type de mode de vie, à savoir aller à la rencontre de tous ces modes de tous ces écolieux, tous ces alternatifs?
C'est une bonne question. Enfin, on me pose beaucoup cette question-là. Je suis peut-être pas le bon exemple parce que côté préparation, moi, j'ai pas trop préparé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En gros, j'avais un objectif, c'était de pas avoir d'objectif. j'avais des raisons de faire ce voyage qui sont de reconnexion à moi-même, reconnexion au vivant, reconnexion à la réalité. À cette époque-là, je parlais pas de vivant. Mais reconnexion à la réalité et de pouvoir aller participer à la création de nouveaux récits pour sortir des récits qui soient à hauteur et à l'échelle des enjeux actuels, que ce soit écologique, d'un point de vue écologique ou social. Donc voilà, pour moi, c'est pour pouvoir parler de solutions, allons voir déjà ceux qui le font déjà, parce qu'il y a plein de gens qui le font déjà, et donc notamment allons voir dans les écolieux, parce que, comme tu l'as dit, les collectifs, moi je crois beaucoup en la force du collectif, et aussi parce que ça me passionne. Donc comment j'ai préparé ça ensuite, je ne l'ai pas préparé parce que j'avais pas le temps pendant que je travaillais, que je m'étais dit que j'allais me prendre 3 mois entre la fin de mon travail et le départ, et qu'en fait je n'ai pas réussi à tenir en place. J'ai besoin d'être dans l'action en fait, et donc j'avais besoin d'être sur le terrain. Donc j'ai choisi 2 lieux un peu... ça faisait quelques mois du coup que j'avais commencé à regarder un petit peu le réseau. Donc j'avais participé au Festival des Oasis. J'avais fait un autre festival pendant l'été. J'avais fait du woofing là où on est, au Bois du Bard. J'avais fait 2 semaines, j'avais embarqué mon frère et une amie. On avait fait 15 jours de woofing ici. Mais à part ça, voilà. Mais j'avais quand même déjà au Festival Oasis, etc., ciblé 2 lieux. Le campus à transition et l'Arche de Saint-Antoine. Et donc je m'étais dit... sans trop de raisons, mais je vais dire, c'est souvent à l'intuition. Quand j'ai le feeling, c'est à l'intuition. Faut que j'arrête avec les mots anglophones. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin d'être sur le terrain, donc je vais aller dans ces 2 lieux. J'avais pas de vélo, j'avais rien. Je vais aller dans ces 2 lieux pour commencer. 3 semaines au campus, trois semaines à l'Arche de Saint-Antoine. Et je verrai sur place comment je crée mon projet, comment je planifie mon itinéraire, je trouve un vélo, comment je communique autour de ça, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. En étant sur place, je revis. Enfin, c'est pas que je revis, c'est je vis. Ah, mais avant, je vivais pas, en fait. Enfin, ça a été assez incroyable. Il y avait vraiment... Je saurais pas trop l'expliquer, mais... je dérive par rapport à ta question. Tu me permets de continuer là-dessus. Non, parce que c'était assez incroyable, quand même. Les premières semaines, j'avais l'impression... Pourtant, j'avais une vie à Londres très intense et remplie, que j'adorais. J'étais passionnée par mon travail. Mais là, j'avais l'impression comme si j'avais jamais vu, que je vivais pleinement. Et je pense qu'avant, je vivais juste avec la tête, vu que je faisais un travail intellectuel. Et que là, je mettais les mains dans la terre et le cœur était à fond. Donc tête, corps, cœur. Parce que je rencontrais plein de gens incroyables, avec plein d'échanges intéressants. J'étais ultra nourrie aussi intellectuellement. Donc je pense que j'étais pleinement vivante, quoi. Ça m'avait vraiment marquée. Et le changement de la notion du temps aussi, parce que le temps est différent quand on est dans du réel et pas dans du virtuel, je trouve. À l'ordinateur, tout va très 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 vite. Donc j'ai fait ces 2 lieux, c'est là qu'il y avait une partie de moi, vu que j'ai un gros gros besoin de contribution, qui a commencé à regarder comment je peux parler de ça et parler de mon voyage aussi, c'était une demande de mon entourage. Et donc j'ai décidé de communiquer à travers la photo, donc j'ai investi dans un appareil photo parce que je voulais rajouter un aspect créatif et artistique à mon voyage, et ça faisait très longtemps que je voulais faire de la photo, j'avais jamais sauté le pas, un investissement notamment. et donc je me suis dit, je vais communiquer à travers la photo, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Même si j'ai une aversion pour les réseaux sociaux, ce qui se voit de plus en plus parce que je suis de moins en moins présente. Pardon, c'était quoi ta question ?
Je sais pas, c'était peut-être la suite à donner à cette aventure, parce que tu es pas prête de t'arrêter de pédaler, si je comprends bien.
Pour le moment, non. Après, si ça se trouve, dans 3 semaines, je vais avoir changé d'avis. J'imagine que c'est des rencontres, un projet peut-être qui me donnera un jour, à un moment donné, envie de m'ancrer quelque part. J'ai besoin quand même d'un peu d'ancrage, mais c'est ce que je fais en retournant dans certains lieux régulièrement, donc comme je l'ai fait à l'Arche de Saint-Antoine, comme je le fais un peu au campus de la transition. À la fois je continue d'explorer des nouveaux lieux, et à la fois il y a des moments, notamment l'hiver, où j'ai besoin de me ressourcer, de revenir vers des gens, vers mes amis, gens que je connais, de garder des liens avec des personnes. Donc j'alterne en fait quand même un peu entre les deux, l'exploration totale et des moments de pause, quoi. Mais de pause en écolieu, donc c'est jamais totalement des pauses, parce que la vie en collectif, ça demande pas mal d'énergie. Je sais pas ce qui va se passer pour la suite, mais je suis très confiante. En ce moment, je me pose pas mal de questionnements existentiels, mais ça c'est parce que Parce que j'ai cette... là c'est dernier... ça fait pendant 2 mois là j'ai repris là, mais pendant l'été j'ai dû faire une pause parce que je me suis faite une entorse au genou. D'ailleurs je me fais opérer en janvier des ligaments croisés. Donc le fait d'être un peu moins dans les écolieux, je me suis un peu demandé c'est quoi ma mission de vie. Petit questionnement existentiel comme ça, qui sont super intéressants et qui vont juste m'inciter à aussi essayer de me former de plus en plus et cibler de plus en plus les choses que j'ai envie de faire après. J'ai quelques idées, pour le moment c'est en train de se développer dans ma tête. Voilà.
Ce sera ma dernière question, alors c'est quoi ta mission de vie ?
Ah bah je sais pas, je sais, la question c'est est-ce que j'ai une mission de vie ? Est-ce qu'on a tous et toutes une mission de vie ? J'en sais rien, peut-être que ma mission de vie c'est tout simplement de vivre, donc c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, de vivre pleinement, et on verra par la suite.
Et puis peut-être encore une question que j'aime bien poser, on va reprendre la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, donc toi quel est le changement que tu aimerais voir dans le monde et qu'est-ce que tu essaies de changer en toi ?
Oh, c'est impossible de choisir tout, de changer tout. Pour moi, le choix, je suis désolée. Désolée les gars, mais il y a du boulot. Hein. Pour moi, tout est en perpétuel... Moi, je me considère être en perpétuel changement, donc je continuerai tout le temps et toujours, à aller toujours plus dans la prise de conscience et dans incarner ces prises de conscience. Voilà, peut-être quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que ce qui est important, ce que je sais pour la suite, que je ne me vois pas vivre autrement qu'en collectif. Parce que c'est juste incroyable, le collectif, on reçoit tellement de choses. Enfin, c'est un peu le 1 plus 1 égale 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3. Bah là, 20 plus 20, ça fait 200, quoi. Donc c'est juste assez, c'est tellement puissant et incroyable que voilà. Et aussi, je me vois pas refaire un job à plein temps parce que j'ai besoin d'un équilibre entre activité intellectuelle, activité manuelle et activité créative, artistique. Mais oui, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ça me parle beaucoup. J'ai longtemps essayé de changer les gens et j'ai pas réussi, donc maintenant je me concentre sur moi.
Lauriane, merci à toi.
Merci à toi, merci de ton écoute.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast que vous venez d'entendre est extrait de la série Regarde ailleurs, une émission qui donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde. Dans le cadre de mon métier de photographe voyageur, j'ai cette chance de pouvoir croiser des gens très souvent inspirés et inspirants. Et j'aime plus que tout leur tendre le micro pour pouvoir leur donner la parole. Belle journée à tous.